Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine, je t'accueille ici pour que tu puisses apprendre de l'expérience d'autres freelances et d'autres indépendants comme toi. Et pour beaucoup d'entre nous, l'année 2020 a apporté de grands changements dans nos vies. Rien que l'expérience d'être confiné chez soi constitue à mon sens un bouleversement drastique de nos habitudes et du quotidien qu'on a l'habitude de vivre. Et personnellement, ma vie a profondément changé l'année dernière, en 2020, et ce, dans tous les domaines. J'ai quitté Paris, je suis reparti vivre chez ma mère, puis j'ai redéménagé, enfin voilà, j'ai vécu énormément de choses. Et du coup, ce sujet du changement m'a beaucoup fait réfléchir l'année dernière. Et du coup, dans cet épisode, on creuse le sujet avec mon invitée, Amandine Lanthelme, avec qui on partage la malheureuse expérience d'avoir perdu beaucoup trop tôt un membre de notre famille proche. Avec Amandine, on partage aussi le fait de proposer dans notre activité de freelance la même chose, de l'accompagnement sur la stratégie de marque. Mais c'est pas pour ça que je l'ai invitée, je l'ai pas invitée pour parler de son métier, je l'ai invitée pour parler de ce point de rencontre qu'on a sur le changement. On a échangé plusieurs fois par le passé, elle et moi, sur l'importance du regard que l'on pose sur les événements de nos vies, notamment l'événement qu'on a en commun qui est le décès de quelqu'un de très proche. Et finalement, nos newsletters de fin d'année 2020 se sont retrouvés sur un sujet commun. Les changements bouleversants de nos vies et de notre année 2020, et comment mieux vivre ces changements. Et du coup, dans cet épisode, on te partage nos réflexions sur ce sujet, et j'espère que ça te plaira et que ça t'intéressera sur pourquoi ce sujet-là du changement est indispensable dans nos activités. Je te laisse te plonger dans l'épisode tout de suite. Bienvenue sur le podcast, Amandine.
Merci.
Comment ça va?
Ça va, en Suède.
Ouais,
À Malmö.
on en parlait juste avant. On en parlait, je pense qu'on va revenir dessus pendant la conversation, parce que c'est un des changements, un des nombreux changements de cette année, j'ai l'impression, mais un des gros changements dont tu m'avais parlé dans un petit texte que tu m'avais partagé. Et ça fait partie des raisons que je voulais pour lesquelles je voulais qu'on discute sur cet épisode. Mais avant de venir à ça, je te propose qu'on rentre directement dans la petite première question rituelle qui est comment et surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante?
Alors, je ne sais pas si on est nombreux dans ce cas-là, mais moi, j'avais pas du tout envie d'être entrepreneur et freelance à la base. Quand j'étais en agence, en fait, je voyais quelques collègues qui étaient freelance ou qui se lançaient en freelance ou qui avaient fait du freelancing avant, et je me disais, mais comment ils font pour trouver des clients? Ça a l'air hyper compliqué. Et moi, ça m'est un peu tombé dessus par hasard parce que j'ai pas trop eu le choix. Et aujourd'hui, je me dis, mais heureusement. En fait, j'ai commencé ma carrière chez des grands groupes comme PepsiCo, Lactalis, Nestlé. Ensuite, je suis partie côté agence, donc j'étais dans le marketing. Je suis partie côté agence en tant que planeur stratégique à Lille. Et en fait, il faut savoir que les postes de planeur stratégique, la plupart sont à Paris, clairement. J'avais déjà eu de la chance de trouver à Lille, en région. Et après, quand j'ai cherché du coup à revenir à Paris, donc voilà, j'ai vu qu'effectivement tout était sur Paris. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais faire ma carrière à Paris parce que j'adore ce métier. C'était un peu tout tracé. Et finalement, mon conjoint a eu une opportunité à Aix-en-Provence. Et donc, je connaissais pas du tout la ville. Et je savais quand même que hors Paris, ça allait être hyper compliqué. Et surtout dans des villes comme ça. À la limite, Lyon, tu vois, pourquoi pas, il y avait quand même quelques opportunités. Mais la région PACA, je savais que c'était compliqué. Mais bon, voilà, je me suis dit, c'est quand même hyper sympa comme région. La ville est géniale. On y est allé pour visiter. On s'est dit que c'était vraiment sympa. Donc voilà, je suis quand même partie en me disant que bah, je verrais comment j'allais me débrouiller. Et puis j'ai commencé à chercher un CDI. Effectivement, c'était hyper compliqué. J'ai commencé après à me dire, bon, bah, si je peux pas être planeur stratégique, je peux peut-être faire chef de projet ou autre. Donc j'ai commencé par faire ça en agence. Là, pour le coup, il y avait du besoin, il y avait des offres. Et en fait, je me suis dit, non, mais, enfin, tu vois, au bout de plusieurs mois, je me suis dit, c'est pas ce que j'aime faire. Et donc, j'ai décidé de revenir voilà, à mon métier passion. Et là, je me suis dit, bah, le seul moyen, finalement, de continuer à faire ça, c'est de me lancer en freelance et de bosser pour des agences parisiennes, à distance, et puis d'y aller régulièrement, parce que c'était vraiment pas loin. En plus, grâce à Ouigo, c'était 10 euros, 10 euros le trajet. Donc,
Merci,
c'était
Wigo.
vraiment pratique. Et donc voilà, donc en fait j'ai commencé comme ça mais bon j'ai vraiment, enfin j'ai attendu bien 6 mois avant de prendre la décision, en ayant vraiment exploré toutes les pistes. Et ensuite je me suis lancée. Et contrairement à beaucoup de freelances aussi qui potentiellement ont déjà un gros client, tu vois à la base en se
Quand il
lançant,
se lance, quoi.
moi j'avais vraiment aucun réseau dans la région, rien du tout, ni à Paris pour le coup en fait, parce que j'avais juste cherché des jobs en CDI, mais voilà aucun réseau sinon. Et donc je me suis dit bon bah je vais vraiment bien travailler mon site etc. Donc j'ai passé du temps sur mes outils de com, alors que souvent les freelances quand même commencent vraiment à bosser tout de suite. C'est un peu différent dans mon cas. Et ensuite j'ai fait de la prospection, donc dans un premier temps auprès d'agences, et c'était un peu plus facile déjà qu'avec des entreprises, tu vois, parce que ils ont des vrais besoins sur notamment des compétitions etc. Des appels d'offres. Et du coup j'ai commencé à bosser assez vite grâce à ça.
Du coup, au début, tes clients, c'était exclusivement des agences
Ouais,
qui avaient
les
besoin
grosses agences, ouais.
d'externaliser des choses, quoi. Ok.
C'est ça.
Et est-ce que tu t'appelais dès le début Made with Curiosity ou c'était un rebranding de toi-même plus tard?
Non, 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 ouais, effectivement. Là encore, je pense que je suis une des seules à avoir fait ça. Bon, c'était un peu mon métier aussi, donc j'ai voulu m'appliquer mes propres conseils quand même, tu vois, en me disant, je vais vraiment bosser mon branding. Donc j'avais quand même bien bossé. Mon positionnement, ma plateforme de marque, tu vois, on en parlera peut-être, mais comme si j'étais une société, finalement, une marque, et mes valeurs, ce que j'avais envie de transmettre. Et du coup, j'ai quand même mis 2 mois à chercher, à chercher un nom. Je sais que mon entourage n'en pouvait plus, du coup. Ils avaient l'impression que j'allais jamais y arriver, puis ils me disaient, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire, puisque t'es freelance, pourquoi tu utilises pas juste ton nom propre, etc. Et moi, en fait, voilà, c'était ma conviction était que j'avais envie de me créer une marque forte, entre guillemets, qui me suive un peu sur le long terme. Et j'ai bien fait, parce qu'aujourd'hui, vraiment, je m'appuie beaucoup dessus, et je sais que ça plaît beaucoup, et que maintenant, j'ai un territoire, entre guillemets, de communication qui est assez riche, varié. Tu vois, je viens de créer mon compte Instagram, Et clairement, j'ai des choses à dire autour de la curiosité notamment, enfin de plein de choses. Donc je pense que j'ai bien fait. Mais c'est vrai que c'est assez rare parce que la plupart des freelances commencent effectivement à travailler tout de suite. Et moi, j'ai pris le temps de me poser dessus pendant 2 mois avant, de vraiment tout fignoler, entre guillemets. Et, voilà.
Et j'avais une autre petite question tant qu'on est sur the nitty-gritty de ton activité au début. À partir de quand est-ce que tu t'es dit voilà, j'ai envie de me spécialiser dans le genre d'entreprise que j'accompagne, peut-être sortir un peu du travail avec les agences, même si tu travailles encore aujourd'hui avec des agences. C'est à quel moment où tu as eu la prise de conscience de j'ai envie ou je me sens capable de passer en direct?
Donc je me suis lancée en 2014. J'ai commencé à bosser pour des agences et je me suis sentie assez seule en tant qu'entrepreneur, tu vois, comme tous les autres. Donc du coup, j'ai intégré des associations d'entrepreneurs, notamment une association d'entrepreneurs féminines, du coup entrepreneurielle en PACA, mais aussi d'autres, des clubs d'affaires, tu vois, etc. Et en fait, donc on partageait nos expériences pour vraiment s'améliorer sur plein d'aspects, tu vois. Je faisais des mini-conférences, ateliers, etc. Aux autres sur mon métier, puis elle aussi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte en échangeant que y avait plein de petites entreprises qui avaient besoin aussi de ces services-là. Alors qu'à la base, clairement, moi, je bossais vraiment pour des grandes marques, tu vois, des grands groupes. Et donc, petit à petit, j'ai eu des demandes, tu vois, de devis, etc., de petits clients. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'utiliserais pas ces méthodes-là, en fait, en les adaptant, bien sûr, sans pour autant proposer des devis énormes et puis passer 2 mois dessus, tu vois. Mais en tout cas, je me suis dit que je me suis dit pourquoi ces petits clients n'auraient pas droit aux mêmes méthodes, entre guillemets, et pourquoi ils partiraient tout de suite dans leur communication sans avoir posé les bases de la stratégie, alors que c'est un peu la base, quoi. Donc du coup, j'ai commencé comme ça, en fait, à avoir des clients sans avoir prospecté, vraiment juste par le biais du réseau. Et de plus en plus après, je me suis dit que c'était vraiment plus intéressant pour moi et plus agréable d'avoir le dirigeant et le décisionnaire en direct. Parce que je travaille beaucoup pour des indépendants, des TPE, des PME, donc souvent c'est le cas. Et du coup, c'était hyper agréable de pouvoir accélérer le processus de décision déjà, alors que quand tu bosses dans un groupe, souvent, moi, quand on était en agence, ils nous demandaient, tu vois, des idées d'innovation. Et en fait, derrière, il y avait 20 personnes qui devaient valider l'idée. Et en fait, du coup, elle n'était jamais validée, quoi. Donc, c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir aller au bout de mes idées. Et donc là, avec les petits, c'est vrai que je pouvais le faire. Donc, j'ai quand même continué à bosser pendant 3-4 ans, je pense, pour des grosses agences. Ça m'arrive encore de temps en temps, quand même. Surtout que là, on vient de me contacter, voilà. Mais c'est toujours... Enfin, maintenant, je privilégie vraiment les agences à taille humaine. Donc maintenant, je collabore aussi avec des agences, mais des petites. Donc souvent 5 personnes, 3 même. Dans lesquelles, en fait, je suis vraiment au même niveau que les dirigeants avec lesquels je travaille. Et on travaille vraiment de manière collaborative. Alors qu'en agence avant, dans les grosses agences, c'était... OK, on sous-traite ça. Tu le fais dans ton coin. Tu nous livres le document. C'est nous qui présentons au client. Tu le vois pas. Et tu sais pas ce qui voilà. Et il t'envoie même pas le résultat du travail graphique.
Le compte rendu, quoi.
C'était vraiment une manière de faire qui me plaisait de moins en moins. Même si il y a des grosses agences aussi avec lesquelles je travaille qui sont quand même qui fonctionnent différemment et c'est agréable. Mais voilà. Donc et puis après bien sûr de plus en plus. Moi en fait mes valeurs ont évolué aussi parce que j'ai essayé de changer de manière de consommer moi-même etc. Tu vois j'ai fait beaucoup de coaching de développement personnel j'ai vraiment tout essayé hypnose etc. Et en fait tout ça a fait que j'ai un peu évolué et je pense que du coup j'attirais aussi peut-être à moi tu vois des personnes qui avaient un peu les mêmes valeurs et du coup j'ai commencé à avoir vraiment des projets de plus en plus éthiques. Que ce soit l'humain, tu vois, qui est mis au centre de l'entreprise et de la manière de manager, des produits éco-responsables, enfin, tu vois, c'est vraiment très large. Mais de plus en plus, j'ai eu des projets comme ça, et là, en ce moment, ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de projets comme ça, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc après, je me coupe pas non plus des autres demandes, parce qu'en fait, au final, t'as toujours, enfin, c'est assez rare quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir vraiment juste avec une idée, une opportunité de business, tu vois, pour faire du fric, quoi. Souvent, il y a quand même une volonté derrière, une vision de leur métier, etc., qui est intéressante. Donc au final, je me coupe de personne, mais en tout cas, c'est le genre de projet que j'attire de plus en plus et que j'ai envie d'attirer, quoi.
C'est cool, merci d'être arrivé sur ce truc de... l'évolution de tes valeurs et de ce que tu as envie d'incarner aussi dans ton travail, parce que je te l'avais dit, une des raisons que je voulais discuter avec toi, c'était sur ce thème de l'évolution ou du changement, qui est l'autre mot qu'on avait mis dessus. Parce que pour la petite histoire, en gros, ma newsletter de fin d'année, qui s'appelait Goodbye 2020, parlait un peu de tous les changements que j'ai vécu en 2020. C'était une des années où j'ai l'impression d'avoir le plus changé dans ma vie. J'ai tellement de choses dans ma vie qui se sont transformées cette année. Et quand je l'ai partagé, tu m'as renvoyé toi aussi un super beau texte que tu avais écrit où tu parlais un peu de toi aussi tous les changements que tu avais vécu cette année. Et au tout début de ce texte, je voulais qu'on rentre par là, tu disais que l'année dernière, tu avais fait une rétrospective sur les 10 dernières années de ta vie. Et du coup, je suis hyper curieux de comment tu t'y es pris sur une rétrospective de 10 ans, parce que comme tu le dis dans ton texte, on a tous fait le bilan de l'année. Moi, c'est un truc que je fais tous les ans et à tous mes anniversaires aussi, un bilan sur ce qui se passe. Mais sur 10 ans, ça doit être incroyable de voir la transformation.
Ah ouais, c'est clair. Mais surtout qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais pas épanouie, moi, dans mes premiers postes, tu vois. Le métier de planner strat m'a vraiment tout de suite épanouie et c'est vraiment ce qui me convenait. Mais avant ça, je me suis vraiment cherchée. J'ai fait une école de commerce qui n'était pas une école de com, donc en fait, on connaissait pas ce métier-là. Du coup, j'ai commencé dans le marketing plutôt statistique, tu vois, analyse de chiffres, etc. Clairement, j'ai jamais aimé ça. Et je me forçais en me disant, bah ouais, mais en même temps, voilà, ça fait partie du métier, bah tant pis, tu vois. Mais vraiment, j'étais pas épanouie et pour être totalement honnête, du coup, j'étais moins bonne, tu vois, clairement. Et du coup, je me sentais moins bonne. Et alors, plus je me sentais nulle, entre guillemets, plus je faisais des erreurs. Et enfin, c'était un peu un cercle vicieux dans lequel j'étais. Et grâce, effectivement, à la découverte de ce métier-là, j'ai vraiment, vraiment trouvé ma voie. Et aujourd'hui, je me sens hyper confiante, tu vois. Alors, attends, où j'en étais? Pourquoi je disais ça?
Que c'était d'autant plus intéressant d'avoir fait le bilan, la rétrospective des 10 ans, justement, parce que t'étais
ouais,
pas
épanouie. Ouais, effectivement, du coup, je me suis, enfin, en fait, on prend jamais de recul, enfin, rarement du recul en tant qu'entrepreneur, parce qu'on a un peu la tête dans le guidon. Et le fait de faire des bilans, alors, déjà, j'ai toujours fait des bilans au début. Toutes les années, tu vois, je faisais un bilan freelance de l'année, ce qui était déjà hyper intéressant. Alors, au début, je me sentais un peu mal de faire ça parce que j'avais l'impression de me la péter vraiment. Tu vois, parce que tu montres que, bah, que t'évolues bien, que ça se passe bien.
Ouais, ça va bien, quoi.
Mais en fait, et comme je l'écrivais au début à chaque fois en intro, je disais, mais en fait, ça peut paraître un peu orgueilleux, mais en fait, c'est vraiment nécessaire parce qu'on est, seul, tu vois, en tant qu'entrepreneur et on a vraiment intérêt, en fait, à se booster soi-même. On n'a pas un manager qui va nous dire c'est bien. Il faut vraiment faire le point de là où on en est, puis aussi être quand même capable de voir les points d'amélioration, tu vois, il y a les deux. Et du coup, la rétrospective des 10 ans, donc j'ai un peu, après, par manque de temps et d'énergie, etc., j'ai un peu arrêté de faire ce bilan-là. Et l'an passé, j'avais vu sur les réseaux sociaux que voilà, qu'il y avait plusieurs personnes qui faisaient le bilan parce que c'était 2020, donc 10 ans.
Ah oui,
10 ans,
de 2010 à 2020, quoi.
Et en fait, j'aime pas trop les modes, mais je me suis dit que c'était intéressant. J'ai effectivement essayé de faire l'exercice et je me suis dit que j'allais le partager parce que c'était vraiment intéressant et je l'ai fait assez simplement. J'avais essayé de rechercher, tu vois, des événements phares entre guillemets de chaque année et puis de voir ce que j'en avais retiré, tu vois, comme enseignement de positif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que alors là je pense à Anis, du coup, qui est quelqu'un de mon collectif Archipel Kyozel, avec qui je fais de la méditation. Je suis un parcours de méditation avec lui. Et en fait, ce qu'il nous dit souvent, c'est que on se raconte l'histoire de notre vie, en fait. Elle pourrait être racontée d'une autre manière, tu vois, cette histoire. C'est juste qu'on choisit nous-mêmes, en fait, des événements dans notre vie qui font qu'on se raconte une histoire et qu'on la raconte aux autres. Et effectivement, c'est le cas. Et du coup, j'avais un peu sélectionné les choses marquantes, mais de ce que j'avais potentiellement envie de garder aussi, tu vois, en mémoire, quoi.
Trop intéressant.
Et ouais, je me suis vraiment rendu compte de toute l'évolution, alors que je suis assez, à la base, peut-être un peu négative quand même, mais je manque pas mal de confiance en moi à la base. Enfin, j'ai travaillé sur moi, mais en tout cas, à la base, c'était le cas. Et donc souvent, je suis un peu là, oui, j'y arrive pas. J'arrive toujours pas à m'organiser alors que ça fait 6 ans que j'ai autant de travail et que j'aurais dû prendre des décisions. Enfin, je m'autocritique beaucoup. Et en fait, le fait de faire ça permet quand même de se rendre compte de l'évolution positive, tu vois, de ce que j'ai fait, quoi, ces dernières années.
Ouais. J'imagine que quand tu le regardes, déjà, j'ai l'impression que quand tu le regardes à l'échelle de 1 an, comme tu disais, des fois, on se rend compte, ah, c'est fou tout ce que j'ai fait en 1 an. Mais quand tu le fais à l'échelle de 10 ans, ça doit être incroyable, quoi.
Des
transformations de fou.
Ouais, c'est clair. Comme tu le dis, là, le faire chaque année, c'est bien. Et en fait, chaque jour, tu sais, j'ai un petit journal là où je note les 3 faits positifs de la journée. Et bah, rien que le fait de faire ça, tu te rends compte qu'en fait, tu vis vraiment beaucoup de choses effectivement en une journée. Enfin, donc, c'est bien d'en prendre conscience en fait.
Ouais, c'est ça. Là, on est plus dans le prendre conscience de toutes les choses qui changent et évoluent. Et un autre petit exercice que tu as fait dans ce texte que tu m'as envoyé, qui est un truc que j'aime bien faire tous les ans aussi, c'est de poser un mot sur l'année ou plusieurs mots sur l'année. Et du coup, toi, tu avais dit que tes mots de l'année, c'était changement, adaptation et lâcher prise. Et je suis curieux, du coup, pour toi, c'est quoi le lien entre ces trois et pourquoi c'était ces trois d'ailleurs?
À la base, moi, je suis pas quelqu'un. Enfin, donc maintenant, ça va. Mais je sais pas. Il y a 10 ans, je pense que si je pouvais pas contrôler une situation, tu vois, ça me rendait malade, quoi. Au sens propre du terme, quoi. J'ai vraiment beaucoup de problèmes de santé liés au stress, à la colère, en fait, tu vois, à la frustration globalement. Et du coup, ouais, c'est un peu le côté tu peux pas contrôler et tu te figes en fait ce que tu te dis. Mais si, il faut que je contrôle. Enfin, la non acceptation. Acceptation du fait que tu peux pas tout contrôler dans la vie. Et donc ça, c'est plutôt le lien avec le lâcher prise, le fait que maintenant j'ai vraiment accepté que qu'il y a des choses qui se passent et que c'est la vie et qu'on peut pas tout gérer et que parfois on peut rien faire. Mon frère est par exemple, tu vois, mort dans un accident de parapente il y a 4 ans. Et du coup, ça te fait prendre conscience déjà que la vie, effectivement, enfin, tout n'est pas acquis et rien n'est permanent. C'est un peu la citation que j'ai mise pour mon texte, pour illustrer mon texte.
Ouais.
Mais du coup, le côté lâcher prise de OK, je peux rien faire pour cet événement qui est arrivé. Du coup, qu'est-ce que je vais en faire derrière, en fait? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être acteur, tu vois, que tu ne dois rien faire. Mais c'est qu'est-ce que tu vas faire après de ça, mais à ton niveau, sur ce que tu peux gérer toi, enfin, ce sur quoi tu as prise, quoi. Après, tu peux pas. Tu peux influencer les autres. Dans la bonne direction, les inspirer, etc. Mais tu peux pas non plus changer à leur place et faire les choses à leur place, tu vois. Donc, il y avait ça. Après, oui, ce qui est sûr, c'est que c'était aussi lié au Covid, hein, ce texte que j'ai écrit. Au début, moi, j'étais vraiment hyper angoissée au tout début. Bon, je regardais beaucoup les infos, donc forcément.
Il y a peut-être une corrélation entre les infos et l'angoisse.
Donc, j'avais fait quand même pas mal de crises d'angoisse au tout début. Et en fait, là, pas du tout. Tu vois, c'est fou, en fait, le regard qu'on peut porter sur quelque chose qui est un événement qui est le même, enfin, tu vois, qui peut se reproduire. Mais nous, en fait, où on a pris vraiment de recul, le truc nous passe au-dessus. Et là, en fait, j'ai juste décidé de vivre ma vie et d'être heureuse, etc., quoi qu'il arrive. Et à la limite, si on doit m'annuler un billet d'avion à cause de ça ou autre, je me dis, c'est comme ça, c'est pas grave, j'irai plus tard. Enfin, tu vois, je me sens pas frustrée à cause de ces événements-là. Ouais. Après, bien sûr que pour des gens qui doivent changer de métier, comme certains de mes clients, à cause de ça, là, va leur dire ça. Tu vois, c'est pour ça qu'à la fin de mon article, je disais, c'est quand même pas facile pour certains, clairement. Et à mon avis, ils tireront les enseignements positifs de cette situation que plus tard. J'ai vraiment de la chance parce que j'ai vraiment toujours eu du boulot, etc. Mais en tout cas, c'est dans tous les cas, c'est intéressant de surfer sur la vague, entre guillemets, de se laisser porter et de faire au mieux, quoi.
Ouais. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, effectivement, c'est qu'il y a cette sorte d'impermanence, comme tu disais, la situation que tu avais utilisée, c'était rien n'est jamais acquis, rien n'est permanent. Et ce que j'entends, du coup, dans rien n'est permanent, c'est un peu le concept de l'impermanence qui peut être partagé parfois dans le bouddhisme ou ce genre de choses. Et que comme rien n'est permanent, il y a des changements constamment, certaines choses sur lesquelles on a du contrôle et d'autres sur lesquelles on n'a pas. Et j'ai l'impression que du coup, c'est cet apprentissage de là où j'ai du contrôle, changer les choses là où j'ai du pouvoir, et là où j'en ai pas, juste lâcher prise en me disant ça fait partie des choses de la vie et je suis capable de m'adapter.
Ouais, après, et c'est vrai que ça veut pas dire qu'effectivement, ouais, c'est ça, ça veut pas dire qu'il faut pas être acteur, tu vois, parce qu'en fait, la plupart des gens, moi la première, hein, je pense, se plaignent, tu vois, de plein de choses qui vont pas, et en réalité c'est juste qu'ils prennent pas les décisions, tu vois, c'est juste ça, quoi. donc là, j'ai envie de dire faut pas non plus se dire je fais rien, je me laisse porter, enfin non, il y a quand même plein de décisions à prendre pour vivre la vie qu'on a envie de vivre, etc. Clairement, c'est comme aussi pour la pollution, etc. Il y en a plein qui disent mais de toute façon ça sert à rien que je change de manière de consommer parce que de toute façon les grandes industries elles continuent. Mais les grandes industries, elles continuent pourquoi? Parce que tu consommes aussi, tu vois. Donc, en fait, je pense vraiment qu'on peut agir sur plein de choses et qu'il faut le faire. Mais il y a des choses sur lesquelles, pour le coup, on peut pas agir, quoi. Après, moi, j'ai écrit beaucoup là-dessus aussi. Le côté karma, genre, oui, tout arrive pour une raison. Alors, je suis d'accord qu'il y a plein de choses. En réalité, il n'y a pas vraiment de coïncidence dans la vie, de hasard. C'est souvent des choses logiques, tu vois. Par exemple, tu as attiré à toi des choses parce que tu as vibré, entre guillemets, cette énergie-là, etc. OK. Mais après, quand on me dit tout arrive pour une raison, et si même la mort de quelqu'un, etc., non, tu vois. Moi, en fait, je pense que tout n'est pas auto-centré sur toi, déjà. Donc, clairement, par exemple, pour un décès ou autre, pour moi, ça n'a vraiment rien à voir. Mais après, la question, c'est ce que t'en fais de ça, quoi.
Clairement. Comment est-ce que... Tu parlais d'histoire tout à l'heure. Quelle histoire tu te racontes dans ta propre tête sur le sens de cet événement?
Parce que tu peux clairement dire toute ta vie, j'ai pas de chance, il m'arrive que des merdes, etc. Et du coup, tu attires tout ça parce que tu vis
c'est ce
de
que
manière
tu cherches,
à l'attirer, de toute façon, inconsciemment, quoi. Alors que tu pourrais très bien voir ces choses-là de manière positive, quoi. Et c'est vrai que l'impermanence, bah, de toute façon, la vie, c'est le changement. Et je me rends de plus en plus compte quand même qu'en fait, j'ai aussi écrit ça, je crois, mais il y a des fois où j'avais prévu des choses. Par exemple, avec un partenaire, je pensais qu'on allait vraiment énormément travailler ensemble, faire plein de choses. Et pas du tout, tu vois. Genre, rien ne se fait. Mais en même temps, je ne lutte pas contre. Je me dis, c'est comme ça, tu vois, si rien ne s'est fait, c'est qu'il y a sûrement une raison. Et après, par ailleurs, il peut se passer quelque chose avec quelqu'un avec qui je n'avais pas d'atome crochu à la base. Mais en fait, il se passe des choses assez exceptionnelles aussi de ce côté-là. Et en fait, il y a aussi le fait que tout peut changer. Je trouve ça hyper excitant aussi, tu vois, de se dire que rien n'est écrit et que demain, il peut se passer plein de choses.
Ouais, c'est hyper intéressant. Mais je trouve ça effectivement très juste ce que tu rappelles sur le fait de... c'est pas une posture passive, en fait. Genre, lâcher prise et être en capacité d'adaptation face au changement, c'est plus une question de... Moi, la question que j'aime bien me poser quand je suis face à ce genre de choses, c'est où est-ce que moi, j'ai du pouvoir face à ce qui est en train de se passer? Tu parlais du décès de ton frère, on a déjà parlé tous les deux aussi du fait du décès de mon père aussi. Et c'est une question que je me suis posée plein de fois depuis, c'est par rapport à cette situation, où est-ce que moi j'ai du pouvoir? Et du coup, là où j'ai du pouvoir, c'est comme tu dis, changer mon regard dessus, ne pas me dire c'est la fin de la vie, mais plutôt le début de quelque chose, et changer l'histoire que j'ai dans ma tête face à cet événement. Je pense que les décès, c'en est un des plus difficiles à gérer, mais... les autres de la vie aussi, quand il se passe un truc, genre t'as un client qui part ou une mission qui s'annule ou ce genre de choses, on peut aussi se poser cette question de ok, voilà, comment, où est-ce que moi j'ai du pouvoir sur cette situation et qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit entre guillemets positif, mais en tout cas ça m'aide à avancer vers mes objectifs.
Ouais, c'est clair.
Il y a un autre truc que tu disais dans ce texte, du coup, sur tout ça qui est intéressant. Tu disais le changement m'a toujours fait peur. J'ai l'impression que du coup, t'as bien changé ton regard sur le truc depuis. Mais je me demandais, j'ai une réflexion qui m'est venue, je me disais, est-ce que quelque part, c'est pas vrai pour tout le monde sur un truc précis à un moment donné que ça nous fait peur quelque part, le changement?
Après, il y a quand même des gens aventuriers dans l'âme, tu vois. Comme l'était mon frère, d'ailleurs, pour le coup. mais bon, d'autres personnes que je peux connaître aussi, qui vraiment vont aller chercher le challenge vers l'inconnu, tu vois. Ils vont partir à l'étranger tout seul et tout, parce qu'ils vont chercher ça. Et moi, à la base, vraiment, comme je l'expliquais, là, en arrivant ici, tu vois, rien que le fait d'aller demander quelque chose en anglais, alors que je parle anglais, tu vois, juste parce que c'est pas le même pays, etc., ça me stressait un petit peu, tu vois. Rien que le fait de devoir changer mes habitudes, comme me mettre à faire du vélo alors qu'à la base j'en faisais jamais, je me disais mais attends, parce que les pistes cyclables sont pas du tout pareilles et tout, tu te paumes un peu au début, rien que ça, tu vois, ça me stressait un petit peu quand même, alors que j'ai déjà bien évolué sur le sujet, mais à la base je suis un peu comme ça quand même. Du coup, moi, en fait, j'ai un peu besoin d'être forcée. Alors en fait, en réalité, c'est moi-même qui met en place ce truc-là, tu vois. Donc, je dis, c'est un événement qui va me forcer à faire quelque chose, mais en réalité, c'est moi qui ai décidé de venir ici aussi, tu vois. C'est moi qui ai décidé, je sais pas, de faire certaines choses qui me faisaient peur. Par exemple, je fais aussi du chant, et clairement, je suis vraiment paniquée quand je monte sur scène, j'ai mal au ventre avant, c'est horrible, tu vois. Mais qui a organisé ça? C'est moi, tu vois, c'est moi qui me suis dit, je vais faire des concerts, etc. Donc, en fait, je me mets dans la situation dans laquelle j'ai plus le choix. Parce que quelque part, il y a un truc qui m'attire vers ça, parce que je sais que ça va me... je suis attirée vers ça, je pense que j'ai envie de me dépasser, et puis je pense qu'il y a du plaisir derrière, tu vois, à la clé, j'imagine. Mais à la base, je le ressens quand même un peu comme une contrainte, tu vois. Mais c'est marrant, c'est le regard
Ouais.
qu'on pose dessus, parce que tu peux poser un regard sur ce genre de choses, comme notamment partir à l'étranger, comme avec un regard super curieux de, et c'est ce que j'essaie de faire maintenant, et ça marche pour le coup, de regarder vraiment toutes les différences, tu vois, entre les cultures, etc. C'est hyper intéressant. Surtout qu'en plus, poser un regard comme ça, j'en ai parlé aussi dans le texte, mais poser un regard comme ça ici, en réalité, j'aurais pu le poser en France aussi, tu vois. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, dans ta ville, par exemple, tu regardes pas la ville de la même manière, tu as l'impression déjà de la connaître, tu es moins curieux. Alors que quand tu es à l'étranger, vraiment, tu fais l'effort de tout regarder et le moindre petit détail, tu vas le voir, quoi. Mais en fait, je
Ouais.
pense que c'est une posture plutôt.
C'est intéressant, ouais. Que ce changement-là de déménagement, ça t'apporte le fait de te dire, ben en fait, je pourrais aussi changer mon point de vue dans plein d'autres circonstances et on ne le fait pas parce qu'on est tombé dans cet état de norme, entre guillemets. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui peut faire peur dans ce qu'on entend par le changement, c'est on s'accroche à les choses sont comme ça, donc je les comprends, je les contrôle, tu parlais de contrôle un peu au début, je suis à l'aise dedans, et si jamais il y a un truc qui change, ça me demande de me réadapter. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, genre on est accroché et attaché à ce qu'on connaît, et que c'est ça qui se fait un peu peur dans les choses qui évoluent. Et c'est
Bah,
marrant que
ça
tu
demande
parlais
de
de
l'énergie,
l'exemple de
hein,
partir
c'est
voyager.
sûr.
Ouais, ça demande de l'énergie. Mais ouais, ce que je me questionnais quand je te posais cette question sur le changement m'a toujours fait peur. Je pense pour différentes personnes, c'est dans différents endroits de notre vie. Tu vois, genre, j'ai eu la discussion avec un ami récemment où lui, il est parti voyager, il est parti en Australie, là, il a envie de repartir au Canada, etc. Et en fait, ça lui fait pas peur. Mais se poser, enfin, genre, avoir un métier, entre guillemets, de rentrer dans le monde pro, créer une routine, s'ancrer quelque part, etc. Ça, c'est un changement qui lui fait peur. Parce que ce qu'il préfère vivre, c'est l'exploration, c'est la découverte, c'est l'apprentissage qu'il a eu dans ses études, etc., etc. Et du coup, je me dis, ben en fait, c'est juste un autre endroit où un changement de ce que tu as l'habitude de vivre, ça te fait peur, quoi.
Ouais, on a tous peur de quelque chose, mais c'est pas forcément la même chose, effectivement.
Mais c'est intéressant, du coup, je me demande si c'est une caractéristique commune de tout être humain, en tout cas jusqu'à un moment où on commence à réfléchir au sujet, quoi.
Bah, à la base, je sais que quand on travaille dans des organisations sur la réorganisation, etc., par exemple, no notamment je sais pas, un nouveau logiciel de gestion, tu sais, que vont devoir utiliser tous les salariés. Souvent, quand même, on sait que la plupart sont réticents au changement, clairement, quoi. Du coup, ils vont tout faire pour montrer que que
C'est
c'est
pas la
pas
bonne chose à
bien.
faire.
Ouais, c'est ça. Et une fois que, par contre, qu'on a adopté le nouveau réflexe, tu vois, enfin, la nouvelle façon de travailler, bah, ça va tout seul, quoi, au final. Et après, on se rend compte que c'est mieux, quoi. Mais ouais.
Du coup, je suis curieux de, avec ton déménagement notamment en Suède, je suis curieux de comment est-ce que cette nouvelle posture de je regarde le changement sous un autre œil, pardon, je regarde le changement sous un autre œil, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton activité? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de freelance de te dire en fait le changement c'est une bonne chose, on s'adapte et ça m'apporte des choses?
Bah, alors c'est vrai que j'avais déjà fait beaucoup de formations quand même avant sur comment améliorer mes méthodes de travail, notamment créativité, etc. Tu vois. Et en fait, et beaucoup de coaching aussi. Et le problème, c'est que je passais jamais à l'action. Enfin, j'exagère un peu. En vrai, ça reste dans ta tête, bien sûr. Il y a des choses que tu utilises petit à petit quand même, sans t'en rendre compte, tu vois. Mais globalement, je mettais pas vraiment beaucoup en application ce que j'avais appris, alors que je trouvais ça génial. Donc, mais bon, je pense qu'il y avait une raison, hein, tu vois. Enfin, on a tous des blocages après, psychologiques ou autres. Et là, en fait, bizarrement, tu vois, il y a des trucs qui se débloquent quand même, alors que j'ai pas fait beaucoup plus qu'avant. Mais c'est juste que je pense que c'est la posture qui change. Et là, je commence vraiment à changer des choses, que ce soit en déléguant davantage de choses, en sous-traitant des choses, que ce soit en lançant, je sais pas, tu vois, voilà, j'ai créé mon compte Insta Pro, c'est pas non plus un énorme changement, mais en tout cas, j'ai décidé sur un coup de tête, je l'ai fait le dimanche, et voilà, tu vois, je me suis
C'est
dépêchée. Enfin,
parti.
après, j'ai commencé à écrire des micro-articles, comme je disais tout à l'heure, sur des sujets qui m'intéressent. Enfin, bref, j'ai eu plein d'idées. Que je commence à me mettre en application, alors que souvent moi je reste un peu quand même dans bon j'avais fait un profiling, tu sais, de quel est ton type de personnalité, etc. Moi je suis vraiment très créative, mais beaucoup dans l'intellectuel, tu vois, le mental, et qui m'intéresse le plus, en fait, c'est pas forcément toujours la mise en œuvre, mais beaucoup la réflexion. Et du coup, souvent, en fait, par manque de temps aussi et d'énergie, tu vois, je sortais pas forcément les idées jusqu'au bout, j'allais pas forcément au bout. Et là, du coup, je commence à le faire. Et là, en fait, de plus en plus, je me dis, ouais, en fait, faut tester des trucs, faut faire des choses intuitivement sans, tu vois, sans trop prendre, même si t'as pas pris le temps de réfléchir pendant 3 mois avant, enfin. Je suis beaucoup plus spontanée, on va dire.
C'est intéressant. Du coup, ce que j'entends, c'est que ça t'aide à mettre en action des choses que tu avais dans la tête depuis longtemps et que tu...
Ouais, c'était peut-être les peurs, en fait, tiroir, tu sais, qui me bloquaient. Et là, j'ai un peu moins, quoi. C'est vrai que comme je vois... En fait, je m'étais quand même fait des films. Alors, c'est le cas aussi de beaucoup de personnes à qui j'en parlais, tu vois, sur l'étranger. Il y en a beaucoup qui trouvent ça génial et qui seraient prêts à le faire, mais j'en avais beaucoup aussi qui me disaient ah, « ça doit faire flipper de vivre dans un pays où tu connais pas les codes, etc. etc. » En fait, en réalité, tu te rends compte que franchement, à moins de partir en Inde ou autre, la culture déjà occidentale, tu vois, elle est vraiment proche en Suède. Donc oui, il y a des choses qui changent, mais franchement, globalement, je suis pas totalement dépaysée. Et en fait, tu te rends compte que quand on me demande comment ça se passe, je dis « ouais, très bien ». Enfin, j'ai l'impression que ça a pas trop changé ma vie plus que ça, tu vois. Surtout que moi, je continue à travailler à distance sans problème, donc ma vie n'a pas totalement changé. Et ouais, alors que la plupart des gens se font une montagne, et moi aussi quand même à la base, en se projetant, en se disant que ça va être hyper compliqué. Fin...
Ouais. Moi, ce que je trouve assez intéressant dans ton expérience là, du déménagement et de toute cette réflexion sur le changement aussi, c'est... Moi, cette année, on m'a beaucoup posé la question dans mes contenus, et j'ai fait plusieurs conférences sur... comment est-ce qu'on devient plus résilient dans ce monde qui change tout le temps? Et j'ai l'impression que ce que tu es en train de vivre, c'est tu prends conscience que ton activité indépendante, elle est pas dépendante du contexte de j'habite en France. Et tu prends compte, en fait, je suis peut-être plus résiliente que ce que je pensais en voyant les changements.
Ouais, c'est clair. Bah, en fait, déjà, la plupart des métiers, effectivement, de demain, entre guillemets, n'existe pas aujourd'hui, tu sais, comme on dit. Et en fait, je pense que contrairement à nos parents ou grands-parents qui bossaient 40 ans dans la même boîte, clairement, on va devoir changer de métier, tu vois. Donc, même moi, qui adore mon métier, qui suis freelance, donc hyper flexible, et je me dis que potentiellement, on sait jamais, peut-être qu'en fait, je changerai peut-être dans 10 ans de métier, j'en sais rien, en fait. Mais justement, au début, ça me faisait un peu peur, ce genre de choses, et maintenant, je trouve ça hyper excitant, motivant. Et je me dis, on a la chance de... Bah, c'est un peu ce que je disais dans l'article aussi. Mais ouais, on a la chance de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Et finalement, ça peut être vu comme positif et une chance, quoi.
Ouais. Aussi, quoi. C'est fou, je trouve. Ce changement de perspective de « j'ai pas envie que demain change et ça peut être paralysant » à « j'ai trop hâte et je suis trop curieux de voir ce que demain va m'apporter parce que... »
Ouais, c'est ça. C'est vraiment la posture qui change, quoi. Après, bien sûr, comme je le mettais, je pense, dans l'article aussi, bon, bah, on va pas vers une amélioration globale côté écologie, tu vois. Enfin, côté terre. Donc, clairement, ça donne pas forcément trop envie de se retrouver dans 50 ans parce qu'à mon avis, ça va être quand même compliqué, tu vois. Mais en tout cas, d'un point de vue perso, moi, je trouve ça hyper excitant tous les challenges qui sont à relever parce que ça va nous mettre au pied du mur et que clairement, on va devoir se bouger, en fait. Et là, le Covid, pour le coup, c'était un peu ça. Par exemple, le Covid a révélé le fait que certaines personnes se sentaient mal dans leur vie, dans leur métier, dans leur couple, etc. Tu vois, parce que au final, c'était un peu ce qui s'est passé. C'est pas que ça a pas créé toute pièce des choses, ça a pas détruit des choses alors qu'il y avait rien à la base. Tu vois, c'était juste des choses qui étaient fragiles, qui ont été détruites. Enfin, c'est juste un révélateur, en fait, je pense. On s'est un peu retrouvé face à nous-mêmes, notamment pendant le premier confinement, tu vois. Où en fait, si t'étais pas bien avec toi-même, clairement tu le remarquais tout de suite, quoi.
Ouais.
Et donc moi perso, j'ai fait beaucoup de développement personnel pendant cette période-là, en prenant soin de moi, en me rendant compte que j'en avais besoin, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai dansé, chanté, etc. Tu vois, et c'est des choses que j'aurais jamais faites sans. Et du coup, du coup, je me rends compte que toutes les difficultés auxquelles on fait face, elles révèlent des choses qui sont intéressantes après pour s'améliorer, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Parce que du coup, justement, il y a un petit passage du texte où tu parlais du premier confinement que j'avais gardé de côté. Tu avais écrit « Le premier confinement m'a fait prendre conscience que les freins inutiles qu'on se met disparaissent rapidement quand on n'a pas le choix. » J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis là. C'est... Ouais. Quand tu as un truc qui vient se mettre en face de toi, genre « voilà, regarde-moi en face, enfin », finalement, tu as t'as pas de frein, alors que peut-être ça fait des années que tu te dis et que tu te trouves des excuses de ben non, je peux pas faire ci parce que machin.
C'est en gros fuir un peu les problèmes parce que tu peux les contourner pendant un moment, tu vois. Et que si t'as pas vraiment si t'es pas au pied du mur, entre guillemets, ben tu le feras jamais, tu changeras jamais, quoi. C'est un peu l'idée. Ouais.
C'est intéressant parce que du coup, la réflexion qui me vient en te disant ça, c'est comment est-ce que je peux chercher davantage, mettre plus de conscience sur dans quel endroit de ma vie et de mon activité je suis en train de me mettre des œillères en mode je contourne le problème et comment je peux commencer à le résoudre avant d'être au pied du mur.
Ouais, ce qui est sûr en fait, c'est que déjà, enfin pour ça, il faut avoir un temps de réflexion et donc ne pas être dans l'état dans le guidon non-stop, tu vois, c'est sûr. Donc moi qui le suis tout le temps, je fais quand même du coaching et la méditation, des choses comme ça qui font que j'ai quand même un peu de temps, tu vois, pour prendre du recul. Et c'est juste, c'est grâce à ça que je peux prendre des décisions, etc., tu vois. Sans ça, je pense que du coup, tu restes dans la même dynamique. Et quand je disais, j'aime pas le changement, par exemple, c'est tout con, mais j'avais un nouveau masque PowerPoint, tu vois, suite à mon rebranding. Et ben, franchement, le fait que ça me demande de réorganiser un peu mon travail habituel, je me disais, ouais, mais je vais perdre du temps, enfin, tu vois, j'avais pas envie. Et rien que le fait, ouais, vraiment de prendre conscience de ça, tu vois, après tu te dis, mais en fait c'est vraiment parfois tu dois investir un peu de temps pour prendre du recul sur des choses, mais après ça va t'en faire gagner aussi, tu vois. Donc c'est et en tant que freelance, souvent on fait passer les clients avant, toujours, alors que c'est pour nos clients aussi qu'on doit se remettre en question régulièrement. C'est important, quoi. Et c'est vrai que moi, en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, j'ai vraiment pris conscience que... Alors, j'avais l'intime conviction quand même que mon déménagement n'allait pas trop impacter mon activité, tu vois, parce que j'ai vraiment, ça fait 5 ans, je pense que j'ai vraiment pas de trou dans mon planning et tu vois, je suis assez confiante. Mais quand même, et là, c'est vrai que ça m'a montré que, en fait, ça montre l'étendue des possibles. Tu te dis, mais en fait, il y a pas de limite. En fait, c'est une fois que, enfin, il y a eu le confinement de passé et puis le déménagement, je me suis dit, putain, mais on peut tout faire dans la vie. En fait, limite, je pourrais aller à l'étranger, bosser de je sais pas où, de n'importe quel pays à l'autre bout du monde, et il y aurait aucun souci, je pourrais continuer, tu vois. Donc ça ouvre des perspectives quand même à la base que j'avais pas du tout. Ça ouvre des perspectives aussi, bien sûr, en termes d'activité aussi, de services à proposer. Il y a tellement de choses à faire au final. Et après, le tout, c'est aussi de trouver du plaisir dans ça. Donc après, il faut aussi se poser sur toutes les activités qu'on peut développer et se dire c'est quoi qui me fait vibrer aussi, quoi.
Ouais, et pour ça, du coup, effectivement, j'entends de nouveau l'importance de se créer ces bulles pour prendre du recul, prendre un temps pour réfléchir. Moi, je fais beaucoup ça par l'écriture. Et je pense que c'est hyper important pour justement, au fur et à mesure, analyser qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui se passe bien avec mes clients, qu'est-ce qui se passe pas bien, comment j'optimise, tester des choses aussi, comme tu dis, peut-être aller à l'étranger, voir si ça me plaît pour voir. Et se mettre dans des situations où on voit et on vit des changements pour se rendre compte est-ce que c'est pour nous ou pas. Mmh. Et du coup, j'ai envie de te poser une question sur ça. Si tu dis que t'es souvent la tête dans le guidon, à ton sens, qu'est-ce qui te manque pour avoir plus de ces espaces de respiration dans ta propre activité?
Après, c'est hyper complexe en réalité comment chacun fonctionne, parce que moi, ça fait 4 ans que je bosse sur moi avec différents outils. Et franchement, je suis pas encore arrivée à, tu vois, j'ai même fait une psychothérapie, etc., mais je suis pas encore arrivée totalement à comprendre encore exactement tous les freins, tu vois, parce qu'il y a des raisons hyper profondes qui remontent à l'enfance, etc., sur certains freins. Donc, en réalité, il y a aussi le fait qu'il faut pas non plus culpabiliser dans ces cas-là, tu vois. C'est-à-dire que j'en suis consciente et il faut prendre conscience de ça. Mais après, il faut aussi lâcher prise en se disant, si je l'ai pas fait, c'est sûrement qu'il y a une raison, c'est que t'as des protections, tu sais. Tu te mets tu te protèges de certaines choses d'une certaine manière, et donc c'est utile à un moment T, et après, faut juste pas que ça dure trop longtemps si ça te sert plus tard, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, moi, en gros, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est le fait de pas savoir dire non à la base, mais le fait de pas savoir dire non, c'est lié à j'ai envie de plaire à tout le monde. Enfin, tu vois, il y a le regard des autres est important. Enfin, en fait, c'est lié à plein d'autres choses qui sont plus profondes, Et à la base aussi, le fait que je sois passionnée partout de nature, tu vois. qui fait que je me dis, mais tout est intéressant. Donc, quand on me dit, mais trie les projets qui arrivent, mais non, ils sont tous intéressants, je peux pas.
Ouais, c'est dire. Hein.
donc, ouais, en fait, c'est intéressant de travailler sur soi parce que tu te rends compte du lien avec ta manière de fonctionner dans le travail, tu vois.
Bah, ce truc dont tu parles là, de la capacité à dire non, moi, c'était clairement ma plus grande barrière d'avoir ces poches de respiration et plus de temps pour mes projets et tout. Et c'est le truc sur lequel je pense j'ai le plus travaillé en fin d'année dernière, début de cette année. Mais j'en prends conscience du chemin parcouru parce que là maintenant, j'ai attiré dans les derniers jours et les dernières semaines des propositions plutôt très alléchantes, disons, où j'avais très envie de dire oui, mais bon, j'ai resté fidèle à ça. C'est ma décision est prise et je ne reviens pas sur ma décision et même peu importe ce que c'est, je dis non. Et quelque part, tu vois, c'est jouissif. De dire non à des trucs sexy en mode c'est pas pour moi.
Tu te sens aligné et. Ouais, j'imagine.
C'est assez fou, je trouve.
Après, je pense que, en fait, ce qui est difficile, c'est donc lié au changement, c'est que t'as eu l'habitude, tu vois, t'as des mécanismes qui se sont mis en place pendant des années, et donc si tu prends pas du recul à chaque fois qu'on t'envoie une demande, mais tu réponds oui direct, tu vois. Enfin, je veux dire, si t'as eu l'habitude de le faire. Donc en fait, je suis en train de mettre en place des outils. Bah bien sûr un planning détaillé avec les dates auxquelles je serai dispo, alors que là pour il y a des fois où je suis là oui je suis dispo dans 2 semaines, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas vraiment fait le point en réalité quoi. Et puis aussi ne serait-ce que c'est tout con, mais franchement ne serait-ce que de remettre des post-it en disant dire non pour te remémorer en fait ce sur quoi tu as travaillé, tu vois. Ça paraît facile hein, parce que quand j'en parle avec mon entourage ou je sais pas, ils me disent, mais enfin, c'est pas compliqué, tu dis que t'es dispo dans 2 mois, c'est pas compliqué. Sauf qu'en fait, ces clients qui viennent me voir, ils ont besoin de ça avant, et ça revient à dire, je ne peux pas, du coup, et, tu vois.
Ouais.
Et en fait, dans l'idée de savoir dire non, t'es pas obligé de dire non, genre, non, puis c'est tout, tu vas aller voir ailleurs, et voilà. Tu peux aussi apporter une solution au client qui soit pas forcément celle qu'il attend à la base, mais qui va quand même l'aider au final, en renvoyant soit vers quelqu'un, en bossant avec quelqu'un ou autre, tu vois, t'as plein de solutions. Et en fait, tant que tu lui apportes une solution intéressante pour lui, je trouve que c'est assez cool.
Ouais, tu contribues et c'est pas comme si tu le renvoyais dans la sauvagerie du monde sans rien.
C'est ça.
C'est clair que moi, c'est quelque chose qui m'aide, c'est de rediriger, quoi. J'ai l'impression de contribuer quand même et ça m'aide à pas juste dire non. Mais c'est vrai que c'est un bon gros challenge et je pense que pour beaucoup de personnes, d'autant plus que je pense que ça vient aussi de quand tu te lances au tout début. Tu vas pas dire non, t'as envie de dire oui à tout parce que t'as envie de remplir ton carnet de commandes, t'as envie de remplir ton nombre de clients. Et du coup, c'est ça qui crée le réflexe aussi, c'est que bah, au début, tu dis oui tout le temps. Et du coup, bah, tu continues et à un moment donné, faut s'arrêter. Et tu sais
oui,
pas
parce que là, je parle de moi parce que ça fait 6 ans que je suis sous l'eau, etc. Après, bien sûr, au début, j'ai quand même accepté des trucs qui me faisaient plus ou moins vibrer, etc. Mais dans tous les cas, j'ai toujours appris de chaque expérience, tu vois. Donc, ne serait-ce que pour me dire, ah bah j'aime pas bosser avec tel client, tu vois. mais en tout cas, au début, c'est clair que tu peux pas non plus tout refuser, quoi. Il y a un moment, faut aussi manger, quoi. Et oui, et donc après, t'es dans un mécanisme. Enfin, ouais, t'es habitué, quoi.
Intéressant. J'ai envie de venir sur une petite question un peu récapitulative de tout ce qu'on s'est dit sur toutes ces choses, sur le changement. Pour essayer de faire une corrélation entre, à ton sens, où est-ce que tu penses que quand tu vis ce que tu es en train de ce qu'on a tous les deux travaillé beaucoup en 2020, de mieux vivre le changement, mieux l'accepter, lâcher prise sur ce qui se passe, etc. À ton sens, c'est dans quels endroits que ça a un impact positif dans notre activité de freelance? Genre les effets positifs, tu vois.
Bah, déjà aussi, c'est accepter. Alors, moi, c'est un peu moins mon cas parce que j'ai vraiment pas vraiment de. J'ai pas vraiment de baisse d'activité, tu vois. Ça fluctue peu, quoi. Mais la plupart, quand même, je sais que c'est le cas. Et déjà, ouais, c'est accepter, en fait, ces moments, tu vois, et ne pas les vivre hyper mal, en fait, en se disant, OK, bah, en fait, une activité de freelance, effectivement, rien n'est jamais acquis, ça peut bouger, etc. Mais du coup, que tu profites de ces moments-là, tu vois, pour prendre du temps pour toi et regagner de l'énergie, tu vois, bosser sur plein de trucs, genre ta com, etc. Enfin, moi, j'ai plein d'idées, hein, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, que j'adorerais mettre en œuvre rapidement. Et du coup, il y a vraiment plein, plein, plein de choses à faire dans ces périodes de creux. Et ouais, accepter en fait que ce soit comme ça, quoi. Alors que c'est vrai que moi, au tout début, j'avoue, la première année, il y a eu des semaines où je dormais mal parce que bah, j'étais pas sûre effectivement de pouvoir continuer et que potentiellement j'allais peut-être devoir retrouver un boulot, tu vois. Mais je sais que je connais des freelances qui ont dû le faire d'ailleurs, ça, parfois. De reprendre un petit boulot alimentaire à côté, ensuite ils l'ont relâché quand ça allait mieux. Et je pense qu'il faut, c'est pas drôle, hein, mais c'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut accepter ça en fait. Et parce qu'à côté, il y a tellement de choses positives comme la liberté, l'autonomie, le fait de pouvoir aller au bout de ses idées sans avoir quelqu'un qui te bloque. Enfin, tu vois, t'as tellement de choses positives que du coup, je pense qu'il faut aussi prendre conscience que c'est normal qu'il y ait. Ces aspects-là et qu'il faut pas les voir comme quelque chose vraiment de très négatif et pour mieux les vivre quoi, aussi.
Ouais, ben c'est vrai que j'entends effectivement que quand il y a des évolutions d'activité comme t'as plus de clients, t'as moins de clients tout d'un coup, ça permet de plus rapidement voir où est-ce que c'est une bonne nouvelle, où est-ce que c'est une opportunité, où est-ce que c'est à mon service quelque part, et de se remettre sur pied plus rapidement, parce qu'effectivement je pense ça peut très vite arriver que t'as pas de client, t'as le stress qui te ronge, tu passes quelques jours à essayer de t'en remettre. Alors que, comme tu dis, bah, tu pourrais mettre ces quelques jours au service de, OK, trop bien, j'ai du temps.
C'est ça.
Je vais enfin bosser sur mon site, je vais enfin remettre à plat.
Ce qui te permettra d'obtenir plus de clients derrière, tu vois. Donc,
effectivement, grave. Donc, c'est un cercle vertueux, quoi. Intéressant. Du coup, pour récapituler pour ceux qui écoutent, c'est mieux vivre le changement. Ça te permet de plus profiter de toutes les évolutions qu'on pourrait penser être négatif de base, mais en allant plus rapidement chercher où c'est à notre service.
Ouais, et puis après, bah, cool. Le deuxième truc, c'est vraiment de saisir les opportunités, comme on en parlait, de se dire, mais en fait, mais si j'avais aucune contrainte dans la vie, je ferais quoi, tu vois? Et là, potentiellement, ceux qui veulent partir à l'étranger, qu'ils n'hésitent pas, etc., même si c'est pas forcément le moment. Mais en tout cas, en réalité, c'est pas le moment, mais j'en connais plein qui sont partis en ce moment quand même. Et qui finalement quand même réussit, parce qu'après c'est vraiment plus t'es convaincu et motivé pour quelque chose, plus tu vas y arriver aussi, tu vois. Donc c'est ça. Après faut pas se forcer à faire quelque chose que t'as pas du tout envie de faire. Mais c'est vrai que c'est souvent clair. T'as un petit, enfin il y a un petit déclic quand même à passer, enfin derrière la peur en fait, et une fois que tu l'as dépassé pour le coup.
Ouais, comme tu disais avec le chant tout à l'heure. Pour arriver ensuite sur les questions rituelles de fin d'épisode, on va faire un autre petit saut de côté pour regarder plus les choses que tu as bien vécues, mais les choses que tu as mal vécues. Et du coup, si tu devais nous raconter ta plus grande galère dans ces 6, bientôt 7 années d'indépendance et comment tu l'as surmontée, ce serait quoi?
En fait, j'ai pas vraiment eu une grosse galère, tu vois. C'est plus que j'ai failli faire des burn-out plusieurs fois, tu vois.
Ouais, donc en fait, sous l'eau depuis 6 ans.
C'est ça. En fait, le truc du freelancing, c'est que soit t'as pas assez de boulot, t'es stressé, etc., soit t'en as trop souvent. Enfin, c'est un peu. Bien sûr, il y a un juste milieu pour ceux qui ont arrivé à trouver l'équilibre. Mais moi, du coup, ouais, c'était un peu le trop-plein, là. Du coup, là, ça va beaucoup mieux, clairement. Mais au début, ouais, j'arrivais vraiment pas à gérer. Et alors, en plus, c'est un cercle vicieux parce que, vu de l'extérieur, les gens sont là, mais pourquoi elle bosse le soir et le week-end jusqu'à 2h du mat, tu vois? Enfin, en fait, ils comprennent pas. C'est juste que toi, bien sûr que c'est pas si facile, tu vas pas juste t'arrêter. En fait, tu t'es engagé sur plein de trucs. Donc, tu peux pas tout laisser tomber non plus parce qu'il faut que tu dormes, tu vois. alors, bien sûr, faut lâcher prise aussi là-dessus. Et en fait, de plus en plus, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, parfois, j'appelais le client. Alors, je le faisais jamais avant. Moi, pour moi, je m'étais engagée sur un truc. Si je dormais pas, c'était pas le problème, tu vois. Fallait juste que je livre le truc à telle heure, quoi. Alors qu'en fait, dernièrement, ça m'est arrivé de décaler de quelques jours un truc, tu vois, et en fait, c'est vraiment pas... Souvent, le client te dit oui, pas de souci. Et toi, tu t'es stressé pour rien avant, tu vois. Donc, il y a aussi ça, lâcher prise un peu sur quand même le niveau de responsabilité de notre métier, parce que moi, ma mère est infirmière, par exemple. Bref, t'as des métiers où là, la responsabilité est vraiment hyper importante, etc. Nous, bon, moi, dans la com, il n'y a pas une question de vie ou de mort non plus. Si je livre le truc 2 jours après, c'est pas non plus, tu vois, dramatique. Donc, je le fais très peu, mais en tout cas... Je garde en tête ça quand même. Et ouais, en fait, les difficultés, c'était vraiment d'anticiper ces phases où j'allais être dans ces périodes de presque burn-out, parce que sur le moment, tu peux plus rien faire, c'est trop tard, en fait, tu vois. C'est vraiment l'organisation, ouais. Le fait de savoir dire non, tout ça, enfin, tout ce dont on a parlé, qui fait que tu vas pas te retrouver dans cette situation-là. Et pour tous ceux qui ont vécu des burn-out, même en tant que salarié, il y en a tellement. J'en connais plein, plein, plein. Parce que je suis aussi, tu sais, je fais aussi partie de la Fabrique Spinoza dans le groupe Bonheur au Travail. Du coup, j'ai entendu plein, plein de témoignages là-dessus. Et ces gens-là, en fait, à la base, ouais, ils le voient venir, mais en fait, ils savent juste pas comment sortir de ça, tu vois. Et c'est juste qu'un jour, ils se lèvent. Moi, ça m'est pas arrivé à ce point-là, mais un jour, ils peuvent plus se lever, quoi. Et là, c'est le corps qui lâche. Et moi, j'étais vraiment à la limite pour le coup. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que je le vois venir. Et du coup, j'ai les signes avant-coureurs, tu vois. Et du coup, je suis plus dans cette situation aussi mauvaise.
De manière aussi intense. Ok, merci pour ce partage. Je pense effectivement que ça se joue beaucoup sur créer des systèmes qui nous permettent d'anticiper et de voir ça arriver avant que ce soit, entre guillemets, trop tard, quoi.
Mais d'où l'intérêt de prendre du temps pour soi, un moment pour prendre du recul. Et...
Ouais, c'est clair, trouver cet équilibre. Trop bien, merci. Et du coup, peut-être que c'est en lien avec ça, mais peut-être pas aussi, mais la deuxième question, c'est si tu étais face à Amandine qui se lance en 2014, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais ?
D'avoir confiance en elle, en fait. Parce que je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais moi, en fait, mon entourage avait peur pour moi, tu vois. Que j'y arrive pas, en fait. Alors, pas parce qu'ils pensaient que j'étais pas capable, tu vois. Vraiment juste parce que eux-mêmes, c'est un peu leur propre peur qu'ils projettent, tu vois. Eux-mêmes, ils se sentaient pas forcément capables de faire ça, et du coup, ils se disaient, ouais, c'est risqué, etc. Alors que franchement, en réalité, le risque, il était très, très, enfin, j'aurais retrouvé un job, tu vois, derrière, et c'était pas grave, quoi, tu vois. Il y avait pas des gros enjeux, j'avais pas de famille ni rien. Et donc, du coup, à l'époque, c'était moi qui les rassurais tout le temps. Donc, à chaque fois que je les avais au téléphone, c'était « oui, mais je vais y arriver », etc. Je sais que j'en ai, pour en avoir parlé avec pas mal de freelance, que c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors, il y en a qui ont la chance quand même d'avoir un entourage proche qui les soutiennent à fond, et c'est génial. Mais en tout cas, quand c'est pas le cas, faut pas non plus le prendre pour soi et se dire que du coup, on va pas y arriver, tu vois. Moi, j'avais l'intuition que j'allais y arriver, en fait. Donc, du coup, même si j'ai jamais confiance en moi, j'avais cette intuition quand même. Et donc, je l'ai quand même suivie. Et en plus, prendre des risques, ça ne veut pas dire justement qu'on ne peut pas changer d'avis, tu vois. C'est-à-dire que oui, tu essaies de te lancer, tu n'y arrives pas. Ça ne marche pas au bout d'un an. Tu changes d'idée, tu réorientes, etc. Tu trouves un job alimentaire à côté, j'en sais rien. Tu vois, tu as plein de solutions. En fait, pour moi... C'est juste des expérimentations à faire. Et tant que tu n'as pas expérimenté, tu ne sauras jamais si ça marche ou pas, tu vois. Il ne faut pas forcément voir l'échec comme un échec. C'est des expériences intéressantes. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on a peur de l'échec, c'est dévalorisé, etc. Alors qu'en fait, si tu testes et que tu n'y arrives pas comme ça, tu feras autrement et c'est pas non plus...
Du coup, où est-ce que tu penses qu'Amandine, en 2014, pouvait avoir encore plus confiance en elle ? Et c'est ça ton conseil que tu lui donnerais?
Alors c'est vrai que je l'ai fait, mais j'étais quand même stressée. C'est aussi pour ça que je dormais pas, tu vois. Parce qu'au final, si j'avais juste écouté mon intuition, moi je savais que j'allais y arriver. Je pense que j'aurais bien dormi. Et là, le fait que mon entourage me dise, mais t'as des clients là? Et là, genre toutes les semaines. Et en fait, j'ai eu la première année 3 mois de creux, tu vois. Et c'était bien sûr. Juste avant de ne plus avoir l'aide Pôle emploi. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il me disait, là, faut se bouger, là, en fait, parce que là, t'as plus d'aide, c'est mort, dans une semaine. Enfin, et c'est pile quand j'ai plus eu l'aide que j'ai jamais plus eu de creux dans mon activité, tu vois. Et moi, je le sentais, en fait, bizarrement. Après, c'était juste le hasard aussi, j'en sais rien, mais en tout cas, je sentais qu'il y avait moyen que ça marche, parce que j'avais... Après, bien sûr, si tu fais rien pour, il n'y a pas de raison que ça marche, mais moi, j'avais planté les graines en allant, en faisant de la prospection, etc., tu vois.
Aussi. Ouais, mais du coup, l'impact de tous ces warnings extérieurs, c'est ça qui faisait que c'était dire à vivre.
Donc, ouais, je pense que c'est bien d'écouter les autres, parce que c'est toujours intéressant d'échanger avec les autres, clairement. Ça te renvoie une image aussi, enfin tu vois, c'est intéressant, c'est un miroir, quoi. Mais il faut quand même aussi s'écouter soi et pas juste pas juste écouter les autres, quoi.
Ok, trop cool, merci pour ce partage. Et la dernière question, qui est ma préférée, Si t'as une question à poser aux gens qui nous écoutent pour qu'ils prennent un temps pour réfléchir sur leur activité, mais aussi leur vie de freelance au sens global, c'est quoi la question ?
En ce moment, en fait, quand je donne des cours, là, je parle du cercle d'or. Tu sais, why, how, what. Donc, ouais. En gros, le why, quoi, le pourquoi. Et donc, en gros, c'est la raison d'être, quoi, de ce que vous faites. En fait, la plupart des freelances, contrairement à une entreprise où tu as une marque commerciale, où souvent ils travaillent un peu cette vision, etc., parce que dans la com, tu en as besoin. Il y a quand même beaucoup de freelances qui ne le font pas, en se disant que ça suffit pour eux de vendre leurs services, tu vois, tout simplement. Genre, je suis web designer, je vends du web design, quoi, point.
Ouais.
Et en fait, non, en fait, on le fait tous différemment. On peut avoir le même métier, mais le faire différemment. Et c'est comme quand je travaille pour une entreprise. Moi, j'ai bossé sur mon image comme je l'ai fait pour une entreprise, avec c'est quoi ma vision des choses, de mon métier, du monde, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, tu vois, par le biais de mon métier. Parce que son métier ou ses méthodes, etc., ça, c'est le moyen d'y arriver. Mais du coup, tu peux avoir une vision quand même intéressante, quoi. Donc, voilà. Je pense que c'est bien
de se poser. Donc, la question, c'est
votre raison d'être, ouais, je pense.
Ok.
Et donc, l'ikigai aussi, c'est intéressant à faire.
Ouais, c'est un bon outil pour ça aussi, ouais.
Ouais.
Trop bien. Je partagerai le cercle d'or et l'ikigai dans les notes de l'épisode.
En plus, ça prend pas trop de temps, c'est assez efficace et voilà.
Invitation d'exercice pour les gens qui viennent de finir cet épisode, c'est trop cool. Merci beaucoup, Amandine, pour toutes ces discussions. Pour ceux qui veulent venir discuter avec toi, suivre ton travail, en savoir un peu plus sur tous les changements que tu es en train de vivre, je les envoie où ?
On mettra en lien, je pense, LinkedIn, Facebook, la page Facebook et le compte Insta Pro.
Ouais, Made with Curiosity, c'est ça ?
Yes, c'est ça.
Ok.
Je vais écrire de plus en plus, je pense, des mini-articles aussi, réflexions. En fait, de plus en plus, Alors, j'ai créé un compte pro différent sur Instagram, différent du compte perso, mais en même temps, il y a de plus en plus une fusion quand même entre la vie perso, la vie pro, tu vois, dans ce que je fais, les valeurs, ouais. Etc. Et du coup, j'ai envie d'écrire effectivement des espèces de réflexions quotidiennes ou hebdomadaires sur des sujets qui sont pas forcément que pro, mais en fait, c'est comme le changement, tu vois. Après, tu fais le lien de manière intéressante avec l'activité, quoi.
Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, Amandine, pour cette discussion et un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Très cool, cette discussion.
Merci beaucoup à toi.
Alors oui, cet épisode est peut-être un peu moins « concret » entre guillemets dans les actions que d'autres épisodes ont pu l'être. Mais il est presque d'autant plus important car il traite, à mon sens, d'un des sujets fondamentaux de l'existence de tout être humain. Le sens que l'on donne aux événements que l'on vit. On l'a dit et répété dans les médias et un peu partout en ce moment, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est incertain et change constamment. Du jour au lendemain, comme on l'a vu l'année dernière, on peut voir toutes nos habitudes, toutes nos routines balayées d'un geste. Et la manière dont on appréhende, navigue et vit le changement est d'autant plus indispensable dans cette période. Ce sujet du changement, il est d'ailleurs déjà présent dans des enseignements ancestraux de la philosophie stoïcienne des milliers d'années avant Jésus-Christ aux religions historiques que l'on connaît tous. Et je me souviens notamment d'un tweet que j'avais partagé au mois de juin dernier, où j'écrivais ceci en commençant par une citation de Bouddha. « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Alors apprenons à voir le changement comme source d'apprentissage, l'apprentissage comme source de croissance personnelle, et la croissance personnelle comme source de bonheur. À mon sens, notre capacité à mieux vivre et même embrasser le changement comme une source de nouveaux potentiels est une des compétences les plus importantes de notre ère. Et du coup, je t'invite, dans les prochains mois, à observer ta propre manière de vivre les changements qui t'attendent. Mais d'ici là, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.